VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous, le monde aujourd'hui, édition du vendredi 8 janvier 2016, en direct de Washington, Bagassi Koura et Anne Alberson. Voici le titre de l'actualité ce matin.
Deux anciens premiers ministres, Anicet Georges Dologuélé et Faustin Archange Touadéra, sont arrivés en tête au premier tour de la présidentielle en Centrafrique.
L'économiste béninois Abdoulaye Bio Tchané a annoncé ce jeudi sa candidature à la présidentielle du mois prochain.
Au Burkina Faso, le nouveau premier ministre a fait hier soir sa première déclaration à la presse.
Je prends mes responsabilités de Premier ministre à un moment particulier de l'histoire de notre peuple. Je prends l'engagement de faire tout ce qui est à mon pouvoir pour être à la hauteur de cette confiance-là.
En football, le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang a été élu meilleur joueur africain de l'année 2015. Il détrône l'Ivoirien Yaya Touré.
Dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal.
Voilà la présidentielle en République centrafricaine. Deux anciens premiers ministres, Anicet Georges Dologuélé et Faustin Archange Touadéra, sont arrivés en tête au premier tour. Tels sont les résultats provisoires annoncés par l'Autorité nationale des élections. Dologuélé, qui a recueilli 23,78% des suffrages, compte nouer des partenariats pour un second tour.
Oui, bien sûr, on ne peut pas aller à un deuxième tour dans un système où on a eu 30 compétiteurs. Sans nécessairement avoir un partenariat avec certains d'entre eux, hein, sinon la totalité si possible. Parce que vous savez, demain, ce qui va se passer en Centrafrique, on aura besoin de beaucoup d'hommes de qualité pour résoudre les nombreux problèmes du pays. Donc chaque homme politique qui peut apporter quelque chose d'intéressant.
Voilà, et son principal rival, Faustin Archange Touadéra, a lui recueilli 19,42% des voix et il s'est dit qu'il ne manque pas d'atouts pour l'emporter au second tour.
Moi, j'ai été Premier ministre dans un passé très très récent, pendant 5 ans. Donc, il y a eu du travail qui a été fait, j'ai un bilan. Donc ça, c'est un élément important. Et deuxièmement, j'ai un projet de société. Un projet de société où je propose une vision aux Centrafricains. Si on regarde bien ce projet de société, il y a des priorités. La première priorité, selon notre point de vue, c'est la paix et la réconciliation nationale. Une fois élu, il nous faut prendre les dispositions pour que la paix véritable revienne et la réconciliation nationale, qui est la cohésion sociale.
Voilà, les deux candidats devraient s'affronter le 31 janvier pour le second tour si ces résultats sont validés par la Haute Cour.
L'économiste béninois Abdoulaye Bio Tchané, ancien patron de la Banque Ouest-Africaine de Développement et ex-cadre du Fonds monétaire international, a annoncé jeudi se porter candidat à la présidentielle du mois prochain. John Lyndon.
C'est la seconde fois qu'Abdoulaye Bio Tchané, âgé de 64 ans et père de 3 enfants, se présente à la présidentielle. Il était déjà candidat lors de l'élection de 2011, dans laquelle il avait fait figure de troisième homme. Réunissant quelques milliers de partisans de son parti, l'Alliance pour un Bénin triomphant dans le stade Charles de Gaulle de Porto Novo, il a fait jeudi la promesse choc de créer 500 000 emplois par an. À quelques jours de la date butoir du dépôt de candidature, deux des hommes d'affaires les plus puissants du Bénin, le magnat du coton Patrice Talon et le roi de l'agroalimentaire Sébastien Ajavon, ont déjà annoncé se lancer dans la course à la présidence. Le parti des forces Kori pour un Bénin émergent du président sortant Thomas Boni Yayi a quant à lui présenté la candidature du franco-béninois Lionel Zinsou, actuel premier ministre, pour lui succéder. Certains accusent déjà ce banquier d'affaires, qui a effectué une grande partie de sa carrière en France, d'être le candidat téléguidé de l'ancienne puissance coloniale. Le premier tour de l'élection présidentielle doit se dérouler le 28 février.
Voilà, le nouveau Premier ministre burkinabé a fait ce jeudi soir sa première déclaration à la presse. Il assure tout faire pour être à la hauteur de la confiance placée en lui. Il entend baser son action sur la jeunesse, fer de lance de l'insurrection et qui a bravé le coup de fusil pour contrer le coup d'État. On reviendra sur ce sujet dans la partie magazine.
Dans l'est de la République démocratique du Congo, 15 personnes ont été tuées dans un massacre à Miriki, localité du Nord Kivu. Les forces armées, les autorités territoriales et le chef coutumier de la communauté Nandé accusent des rebelles hutu-rwandais, des forces démocratiques de libération du Rwanda, d'en être responsables. Les victimes sont toutes de l'ethnie Nandé. L'armée nationale et les casques bleus sont accusés une nouvelle fois de passivité face aux groupes armés.
Au Kenya, un enseignant du primaire a été condamné hier à 20 ans de prison. Il recrutait ses jeunes élèves pour les Chebabs somaliens. Félix Yepassi Zembrou.
Le juge a retenu que Samuel Wanjala Wabiele, alias Salim Mohamed Wabiele, a profité de la pauvreté dans la ville côtière de Kilifi. Il aurait soudoyé les enfants qui marchaient pieds nus et en haillons en leur offrant le gîte et le couvert. Wabiele a été arrêté en juin dernier et devait répondre de 3 chefs d'accusation, dont celui d'appartenance au groupe islamiste Chebab. Le tribunal l'a reconnu coupable d'avoir radicalisé ses élèves pendant ses enseignements coraniques avant de les envoyer grossir les rangs des Chebab en Somalie voisine. D'après les responsables kényans, plusieurs dizaines de jeunes ont fait la traversée ces 3 dernières années pour être formés dans des camps d'entraînement des djihadistes somaliens. Les Chebab sont accusés dans de nombreuses attaques au Kenya, y compris pour le massacre à l'université de Garissa où 148 personnes ont été tuées en avril dernier.
Mise en œuvre de l'accord de paix sud-soudanais d'août 2015, le président Salva Kiir et son adversaire et ex-vice-président Riek Machar se partagent les postes ministériels du futur gouvernement d'unité nationale. Les précisions de Jean-Roger Bion.
L'annonce a été faite dans un communiqué de l'ancien président botswanais Festus Morae, qui dirige la commission conjointe de suivi de l'accord mis sur pied par l'IGAD, l'Organisation régionale des pays d'Afrique de l'Est. Le gouvernement du président Salva Kiir va désigner 16 ministres, y compris ceux des finances, de la défense et de la justice. Le camp de Riek Machar va disposer pour sa part de 10 portefeuilles, notamment ceux du pétrole et de l'intérieur. 4 postes sont mis à la disposition de groupes moins importants. Toutefois, le communiqué de Festus Morae ne précise pas quand est-ce que ces postes seront attribués. Les belligérants sud-soudanais avaient signé en août dernier un accord pour mettre un terme à la guerre civile qui a fait des milliers de morts et plus de 2 millions de réfugiés et de déplacés. À plusieurs reprises, les deux parties se sont mutuellement accusées de n'avoir pas respecté leurs engagements.
Plus de 50 personnes ont péri ce jeudi en Libye dans un attentat suicide contre un centre de la police dans l'Ouest. Selon l'AFP qui rapporte l'information, 6 autres sont mortes dans un attentat suicide dans la ville pétrolière de Ras Naalouf. Par ailleurs, dans la ville de Zliten, à 170 km à l'est de Tripoli, un kamikaze a fait détonner des explosifs à bord d'un camion-citerne contre le centre de formation de la police. C'est ce qu'a indiqué à l'AFP une source de sécurité locale.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le secrétaire d'État américain John Kerry affirme que la mise en œuvre de l'accord sur le nucléaire iranien pourra se faire dans quelques jours si tout va bien. Il a fait cette déclaration jeudi lors d'un exposé dans lequel il a souligné les progrès en politique étrangère des États-Unis en 2015. Monsieur Kerry a indiqué avoir parlé à son homologue iranien, Mohammad Javad Zarif, qui lui a assuré que l'Iran va s'acquitter de ses obligations aussi rapidement que possible.
Le secrétaire d'État américain, toujours, qui a critiqué hier la stratégie de la Chine à l'égard de son allié nord-coréen. Selon l'AFP, Kerry a réclamé en substance plus de pression de Pékin sur Pyongyang après son nouvel essai nucléaire du 6 janvier.
Pendant ce temps, la Corée du Sud a repris vendredi la diffusion de messages de propagande à la frontière avec le Nord en réponse justement au dernier essai nucléaire. Les émissions ont repris à midi, a déclaré à l'AFP un responsable du ministère sud-coréen de la Défense. Les puissants haut-parleurs situés à la frontière fortement militarisée entre les deux pays diffusent un programme éclectique mélangeant de la musique pop, des bulletins météo, des informations ou des critiques du régime nord-coréen. Cette méthode de guerre psychologique remonte aux années de conflit ouvert entre les deux camps entre 1950 et 1953.
Ici aux États-Unis, Barack Obama a défendu hier soir avec force ses mesures, je cite, « de bon sens pour mieux encadrer les armes à feu qui font quelque 30 000 victimes par an aux États-Unis. Je respecte le droit de porter des armes, je respecte les gens qui souhaitent posséder une arme pour se protéger ou pour chasser, mais il est cohérent de tout faire pour éviter que les armes ne tombent entre les mains les mauvaises mains. C'est ce qu'a déclaré le président américain sur la chaîne CNN où il participait à une discussion retransmise en direct depuis l'université George Mason à Fairfax en Virginie. Le très puissant lobby américain des armes, la NRA, a refusé de participer à cette émission.
Pour la première fois depuis 1945, une réédition de Mein Kampf est publiée aujourd'hui en Allemagne à des fins pédagogiques, malgré les réticences que suscite le regain de visibilité accordé au pamphlet d'Adolf Hitler. Selon Andreas Wirsching, directeur de l'Institut d'histoire contemporaine de Munich, il s'agit de briser le mythe autour de ce brûlot antisémite, fondateur du nazisme et du projet d'extermination des Juifs.
Les allergies dont souffre l'homme moderne proviendraient de gènes hérités des Néandertaliens et Denisoviens, des cousins éteints des humains, à la suite de croisements avec ces espèces il y a environ 40 000 ans. Ces accouplements préhistoriques font que tous les humains modernes, à l'exception des Africains, ont hérité de 1 à 6% de gènes d'anciens hominidés, comme l'homme de Néandertal et de Denisova, des peuplades qui vivaient en Sibérie. C'est ce qu'expliquent deux études publiées dans la revue américaine Journal of Human Genetics. L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco. Ce matin, c'est avec Anastasie Tudiès.
La Côte d'Ivoire a donné aujourd'hui le coup d'envoi de la campagne agricole et commerciale 2016 pour la filière EVA dans un contexte international marqué par une baisse continue des cours. Le prix du kilo de caoutchouc a été fixé à 247 francs CFA, soit 376 centimes d'euros. Il y a 4 ans, il était de 1 000 francs CFA. Le chiffre d'affaires du secteur, lui aussi en baisse, est passé de 538 milliards de francs CFA en 2011 à 292 milliards de francs CFA en 2014, ce qui a entraîné évidemment une baisse des revenus des producteurs, passé de 350 milliards de francs CFA en 2013 à 140 milliards de francs CFA en 2015. Si les revenus plongent, la production, elle, continue d'augmenter. La Côte d'Ivoire a produit en 2015 environ 400 000 tonnes de caoutchouc contre 340 000 tonnes l'an dernier pour une capacité de transformation installée de 450 000 tonnes. L'objectif visé est de passer à une production de 600 000 tonnes en 2020. Le président Alassane Ouattara a annoncé à l'occasion de ses vœux à la nation le 31 décembre l'instauration d'une nouvelle réforme de la filière EVA en créant une organisation professionnelle paritaire où siégeraient des représentants de l'État. L'avionneur américain Boeing a livré un nombre record d'avions civils en 2015, notamment grâce à une augmentation de ses cadences de production. 762 appareils ont été livrés, soit une hausse de 5,4% sur un an, alors que les prévisions tablaient plutôt sur 755 à 760 avions.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, c'est l'heure des sports. Bonjour Eric Manirakiza.
Bonjour Bagassi.
En football d'abord, joueur africain 2015, Aubameyang détrône Yaya Touré.
Tout à fait Bagassi, Pierre-Emerick Aubameyang, buteur gabonais de Dortmund, a été élu hier meilleur joueur africain de l'année 2015, détrônant ainsi Yaya Touré, lauréat des 4 précédentes éditions et capitaine de la Côte d'Ivoire, champion d'Afrique l'année dernière. Du côté des entraîneurs, c'est le français Hervé Renard qui a été élu après son deuxième titre de champion d'Afrique. Il a gagné cette coupe en Zambie en 2012 et donc Côte d'Ivoire 2015.
Le recours à la vidéo dans le football est fortement préconisé par le board.
C'est l'instance qui détermine et fait évoluer les règles dans le football, réunie hier à Londres, qui a fortement recommandé le recours à la vidéo et proposé des tests rapides. Le feu vert pourrait être donné lors de l'Assemblée générale annuelle du BOD du 4 au 6 mars à Cardiff.
La FIFA, élection à la présidence, Michel Platini retire sa candidature et l'UEFA, lui, réitère le soutien pour blanchir son nom.
Platini n'a plus le temps d'épuiser les recours après la suspension de 8 ans de toute activité liée au football prononcée le 21 décembre par la justice interne de la FIFA. Malgré tout, l'UEFA continue de soutenir le droit de Michel Platini à une procédure équitable et à la possibilité de blanchir son nom. Et avec vous, Bagassi, les résultats d'hier en soir en NBA, le championnat de basketball nord-américain.
Oui, Atlanta a battu Philadelphie 126 à 98. Boston est tombé face à Chicago 92 à 101. Et puis enfin, Utah a été battu par Houston, 103 à 94. Merci Eric.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Bagassi Koura de retour avec vous sur VOA Afrique. Place maintenant au dossier du jour. Le tout nouveau Premier ministre burkinabé, Paul Kaba-Tieba, place son mandat sous le sceau de la jeunesse vaillante du Burkina Faso avec comme leitmotiv la démocratie, la liberté, le changement et les emplois. Eh bien, retrouvons Zoumana Wonogo, notre correspondant à Ouagadougou.
Je prends mes responsabilités de Premier ministre à un moment particulier de l'histoire de notre peuple. Et je prends l'engagement de faire tout ce qui est à mon pouvoir pour être à la hauteur de cette confiance-là.
Après avoir découvert le nom du nouveau Premier ministre, c'est dans la soirée du jeudi que nombre de Burkinabés ont pu coller un visage à ce nom et entendre ses premières déclarations. Le Premier ministre Paul Kaba-Tieba se place dans la ligne du sacrifice consenti par la jeunesse burkinabé.
Les jeunes de ce pays-là ont pris la responsabilité de marcher dans la rue, de braver les armes, de braver la mort pour mettre fin à ces régimes-là. Les jeunes de ce pays se sont également battus pour lutter contre la tentative de récupération donc, du pouvoir à travers le coup d'État manqué. Ce courage de la jeunesse, cette clairvoyance de la jeunesse, cette détermination de notre jeunesse nous interpelle. Elle montre que nous sommes, si nous le voulons, en mesure de prendre notre destin en main et de construire un avenir. Et donc le souvenir des martyrs qui sont tombés lors de ces deux événements, à savoir les éléments de l'insurrection du 30 octobre 2014 et la résistance farouche que la jeunesse a eu à manifester à la tentative de coup d'État de septembre 2015, démontre à souhait que la jeunesse burkinabé aujourd'hui est mature. La jeunesse burkinabé aujourd'hui a besoin de changement. La jeunesse burkinabé aujourd'hui a besoin de démocratie. Elle a besoin de progrès économique et social qui sont à la hauteur des sacrifices consentis. Je pense que la politique que le chef de l'État va impulser sera en mesure de répondre aux attentes de la population, de répondre aux attentes des jeunes en termes d'emploi, en termes de démocratie, en termes de progrès social.
Le nouveau Premier ministre, Paul Kaba-Tieba, sans donner de date précise, assure que le gouvernement sera formé rapidement pour attaquer les grands défis qui se posent au Faso. Zoumana Wonogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
Le verdict du procès des putschistes du 13 mai dernier au Burundi sera prononcé le 14 janvier prochain. Ce procès a été tenu ce mercredi en séance publique à Gitega, dans le centre du pays. La défense continue de dénoncer un procès non équitable. Reportage à Gitega de notre correspondant Christophe Nkurunziza.
Il est presque 19h, heure locale, lorsqu'un camion de la police ou autre escorte achemine les 28 personnes accusées d'être de mèche avec le général Godefroy Niyombare, qui avait revendiqué le changement de régime le 13 mai 2015. Le président du siège venait de clôturer l'audience débutée vers 7h GMT. Épuisés, les présumés putschistes se sont dirigés vers la maison de détention de la prison centrale de Gitega, où ils croupissent depuis octobre de l'année dernière. L'avocat de trois détenus estime que le procès ne suit pas ce qui est recommandé dans le code pénal burundais. Fabien Segatois.
Il n'appartient pas au prévenu de prouver son innocence. Il appartient au ministère public de prouver la culpabilité par des éléments de preuve produits dans le dossier ou alors par des témoins, parce que les témoins sont également des éléments de preuve. Mais ce qui est prévu par la loi, c'est que tous ces éléments de preuve doivent être produits à l'audience et combattus contradictoirement à l'audience, parce que le prévenu a le droit de s'opposer à ce qu'un témoin dit à l'audience et il doit le dire à l'audience.
Pour cet autre avocat qui défend un capitaine de la marine burundaise qui était de garde le jour de son arrestation, le procès est unique car il n'a aucune preuve tangible fournie par l'accusation.
Le ministère public n'a pas pu apporter de preuves à la cour, démontrant clairement, au-delà de tout doute raisonnable, que mon client a été impliqué directement ou de près dans cette tentative de putsch. En ce qui concerne les deux autres infractions, à savoir l'assassinat, nous avons démontré à la cour qu'on ne peut pas globaliser en matière pénale, que la responsabilité pénale est individuelle, personnelle, que le ministère public n'a pas su démontrer noir sur blanc que mon client a tué. Sur ces infractions, nous avons dit que mon client doit être acquitté.
Depuis la candidature du président Pierre Nkurunziza pour un troisième mandat contesté, la violence a augmenté d'un cran dans certains quartiers et régions de l'intérieur du pays. Même les négociations entre belligérants de l'opposition et du gouvernement piétinent. Arusha a été boycottée par la partie gouvernementale, jugeant la décision du médiateur Yoweri Museveni de n'avoir pas été consultative pour fixer la date du 6 janvier 2016 comme début des pourparlers. Christophe Nkurunziza, Gitega, VOA Afrique.
Voilà, à Djibouti, plusieurs membres de l'opposition et le président de la Ligue des droits de l'homme sont toujours aux arrêts depuis le 21 décembre dernier. Ce petit pays de la Corne de l'Afrique doit tenir des élections dans 3 mois. Le président Ismaël Omar Guelleh brigue un 4e mandat. Sur la situation politique de Djibouti, Idriss Fall a obtenu l'éclairage de Mohamed Chaouki. Il est analyste djiboutien basé à Houston, au Texas.
Il y a eu des morts le 21 décembre dernier. C'est une situation explosive à l'intérieur du pays. Le président Ismaël Omar Guelleh veut se représenter pour la 4e fois. Il ne cherche vraiment pas l'apaisement et il ne veut pas une opposition sérieuse en face de lui.
Mais il a fait modifier la constitution, donc il a le droit de se représenter une 4e fois, non ?
Oui, bien sûr, il a modifié la constitution qui limitait le mandat du président à 2 mandats. Vous savez, le Parlement djiboutien, c'est une chambre d'enregistrement. Il fait passer les lois qu'il veut, les textes qu'il veut. Maintenant, il peut se présenter pour la 4e fois. Mais avant la fin de son 2e mandat, il avait dit d'une façon catégorique qu'il n'allait pas se représenter et qu'il n'allait pas changer la constitution. Chose qu'il a faite. Juste après le 3e mandat, il disait que c'était la dernière fois qu'il allait se présenter à l'élection présidentielle. Et puis on voit, il se représente pour la 4e fois.
Mais en face de lui, l'opposition, elle est morcelée, fragmentée et même alimentaire, si j'ose dire.
Oui, vous avez parfaitement raison. Le problème à Djibouti, depuis l'accession du pays à l'indépendance, nous n'avons pas une culture politique. À Djibouti, c'est le néant total. C'est une seule radio, une télévision et un journal que le pouvoir contrôle. Pendant ces années-là, il y a une culture politique qui a complètement disparu à Djibouti. Nous arrivons depuis 1977, rien. Et avec l'USN, depuis 3 ans, il y a une renaissance politique à Djibouti. C'est vrai, comme vous dites, il y a une opposition alimentaire. Il y a des hommes qui gravitent autour du pouvoir pour des gains personnels. Ce sont ces gens-là que le président Ismaël Omar Guelleh veut avoir en face de lui. Il ne veut pas un candidat sérieux de l'opposition. Et l'USN est fragmenté. Il y a 3 ou 4 personnes qui veulent se présenter à la présidence, ce qui est légitime. Mais pour le moment, c'est un apprentissage démocratique. L'USN est venue depuis 3 ans sur le paysage politique djiboutien. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer. Il y a un dynamisme, il y a des gens qui ressortent de leur sommeil et qui veulent se battre contre ce régime-là. On veut changer. Djibouti est un pays qui a beaucoup d'atouts. Vivant dans un pays où vraiment 80% de la population est pauvre, on n'a pas accès à l'eau potable, on n'a pas accès à l'électricité. On paye 1 kWh d'électricité le plus cher au monde. L'eau est pratiquement inexistante. On peut rester pendant 3-4 jours sans avoir de l'eau. Et pourtant, les aides étrangères, des bases militaires américaines et françaises sont énormes. On ne sait même pas les recettes du budget djiboutien. Tout est flou. La corruption, et puis la malgestion du pays est dure depuis 1977.
Mohamed Chaouki, analyste djiboutien basé à Houston, au Texas.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères a annoncé hier jeudi que Téhéran va protester auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies contre le bombardement de son ambassade au Yémen par des avions saoudiens. Il s'agit là du dernier exemple de la détérioration des relations entre Téhéran et Riyad. Riyad qui a rompu cette semaine ses relations diplomatiques avec la République islamique. Pour un éclairage sur la rivalité entre l'Arabie saoudite sunnite et l'Iran chiite, Idrissa Seydou Dia a contacté le professeur Souleyman Bessir Diaye de l'Université Columbia à New York, l'invité du dialogue des religions de mercredi dernier.
Le conflit entre ces branches de l'islam remonte à la mort du prophète Mohammed, qui devait lui succéder à la tête de la communauté. Son gendre Ali ou son compagnon Abou Bakr, le professeur Diagne.
Le premier calife a été Abou Bakr. Ali sera lui-même calife, évidemment, quatrième calife après Abou Bakr, Omar et Ousmane. Son califat se terminera tragiquement puisqu'il sera assassiné. Et son assassinat laisse libre champ à ce moment-là à la première dynastie qui s'installe, puisque jusque-là, il n'était pas question de dynastie. Abou Bakr n'aurait pas pensé se faire succéder par son fils, ni Omar, ni Ousmane. Les Omeyyades installent un principe dynastique. Autant les quatre premiers califes étaient des êtres de grande piété, autant les Omeyyades vont se distinguer par d'abord une morale individuelle qui laissait à désirer sur le plan de l'éthique islamique et d'autre part des exactions qui font qu'une révolte va se produire.
Hussein, fils d'Ali et petit-fils du prophète, a été ainsi encouragé à se révolter en tant que seul leader légitime pour sauver les musulmans de la dynastie des Omeyyades et de Yazid, leur chef. Mais Hussein se retrouvera tout seul à Karbala, dans le sud de l'Irak, face aux troupes de Yazid.
Quand il viendra les trouver avec une toute petite troupe, ils ne se porteront pas à son secours. Yazid fait massacrer la petite équipe. Il ne laisse vivant qu'un seul fils de Hussein parce qu'il était lui-même très malade et mourant. Ils se sont dit que ce n'était pas la peine de le tuer.
Tous les 72 membres du groupe de Hussein, dont sa famille, des femmes et des enfants, ont été massacrés à Karbala. C'est à cette date, en 680, que la rupture sera véritablement consommée entre chiites et sunnites, souligne le professeur Diagne.
La rupture s'effectue à ce moment absolument dramatique et tragique. C'est là que la rupture entre les chiites, c'est-à-dire les partisans d'Ali et de sa famille, et ça peut être eux-mêmes des sunnites, c'est-à-dire les continuateurs de la tradition du prophète, c'est là que cela va se cristalliser. Et par la suite, maintenant, une rupture qui a eu lieu sur la question politique de la succession va en quelque sorte s'approfondir théologiquement. Au cours du temps, il va y avoir une élaboration d'une lecture chiite de l'histoire religieuse qui estimera par exemple que la prophétie devait ensuite se poursuivre par l'imamat, qui est que les différents imams devait en quelque sorte succéder au prophète parce qu'il était normal que la prophétie fût continuée par l'imamat. Et vous avez donc des élaborations doctrinales qui vont faire que vous aurez deux approches théologiques différentes. Mais la différence ne touche pas véritablement au dogme, c'est le même texte religieux, c'est le même Coran, c'est la même reconnaissance du prophète.
Le professeur Souleymane Béchir Diagne de l'Université Columbia à New York.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Aujourd'hui, reggae music, reggaeton bien sûr, pour les amis qui adorent aussi la salsa. Et aussi nous allons continuer avec notre sujet de cette semaine. Vos points de vue dans RM Show, envoyez-nous aussi vos réactions par SMS au +225 58 92 85 40. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show. Appelez-nous aussi au 001 202 619 31 40. RM Show, c'est chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa.
Estoy moderna, te mira, yo te digo que no pierdo tiempo. Esta negrita sabe de todo, esta negrita es un monumento. Rivera.
Cúcala, cúcala, cúcala que ya sale. Cúcala, 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 cúcala que se hace. Cúcala, 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 cúcala que ya sale. Está moderna, oiga, mire, es un monumento. Esa negrita sabe de todo. Caballero, no pierdas tiempo. Juega.
Cúcala, cúcala, cúcala.
Tremenda combinación.
Cúcala, cúcala, cúcala.
Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Anne Alverson était à la réalisation. Nelson Lopez à la console technique. Présentation Bagassi Koura. Ainsi va le monde aujourd'hui. Retrouvez l'essentiel de nos informations sur notre site internet voafrique.com et aussi sur notre page Facebook. Passez un excellent week-end à l'écoute de VOA Afrique.